Le transmédia, c'est l'art de raconter une histoire qui vit sur différentes plateformes, comme la télé, la BD, le web et les médias sociaux. Nécessairement, il transforme donc totalement la façon de concevoir et de scénariser. Pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de la chose, on cause avec la passionnée et passionnante Véronique Marino, directrice du programme Média Interactif à l'INIS. Bon podcast.
Salut, ça va bien, Alinis?
T'es encore là? Oui, je m'occupe toujours du programme, qui n'arrête pas de changer, puis ça, c'est l'objectif aussi.
Parfait. C'est quoi pour toi, Véronique, le transmédia?
Le transmédia, ça reste une nouvelle écriture. En fait, ça reste une écriture complexe, parce que ça nécessite un niveau de scénarisation qui est double. C'est-à-dire qu'on a la scénarisation au niveau du contenu, comme toute histoire, mais en plus de ça, il faut y ajouter la scénarisation des contenants. Donc on a ces deux dimensions qui sont à la fois le fond et la forme. Et parce que c'est très difficile d'emmener quelqu'un d'un média à un autre. Il faut qu'il y ait une raison à ça, il faut qu'il y ait un sens à ça. Et alors ça, pour moi, le transmédia, c'est l'écriture de cette transhumance d'un morceau de contenu vers un autre morceau de contenu qui ne doit en aucun cas être une réplique. En fait, c'est un petit peu le défi du transmédia, c'est que le transmédia a ouvert le principe de la franchise et non pas de l'histoire. On est dans un univers et non pas dans une histoire. Je ne sais pas si tu avais suivi à South by Southwest cette année le speech du créateur de Walking Dead. Et The Walking Dead, il disait « Je n'ose pas prononcer le mot transmédia, je ne peux plus le dire aujourd'hui. » Alors qu'on s'entend que s'il y a bien des œuvres, une grande réussite en termes de vision et d'œuvres transmédia, c'est bien Walking Dead. Et pourtant, lui ne peut plus prononcer ce mot-là.
Dis-moi, Véronique, le fait qu'il ne peut plus le prononcer, c'est-tu justement à cause du fait que ça a été utilisé à toutes sortes de sauces?
Exactement, et qu'aujourd'hui, la connotation est très négative.
C'était dans ce sens-là que je posais la question, à savoir si, je ne sais même pas si c'est une industrie qui est formée en tant que telle, mais le transmédia est encore assez anecdotique, puis effectivement, on voit beaucoup de mauvais transmédias qui viennent têter de bons transmédias, puis il y a tellement de chicanes à l'interne que les puristes parlent de plurimédia, etc., qu'à un moment donné, on dirait que l'expérience, elle devient plus le fait de nommer la bête plutôt que d'en faire du bon.
C'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles générations de créateurs font tous du transmédia. Leur grand défi, ce n'est pas de créer transmédia, c'est de garder le contrôle artistique de leur œuvre. Et c'est quelque chose sur lequel, justement, le créatif de Walking Dead a très bien réussi. Et ce qu'il écrivait, d'ailleurs, c'était ça. C'était qu'aussi, ses jeunes compères œuvraient énormément à garder le contrôle artistique. Parce que de partir d'une BD pour ensuite créer des univers vidéo, ensuite créer des univers cinéma, créer des univers de jeux qui sont l'expression du monde qu'ils ont développé, c'est quelque chose aujourd'hui qu'ils y font naturellement. Par contre, ils ne peuvent pas être partout et faire tout.
Ben non.
Mais aujourd'hui, ils créent tous en transmédia parce qu'ils ont ils ont compris intuitivement qu'on ne pouvait pas faire en BD ce qu'on faisait en cinéma, ce qu'on fait en jeu. Et donc, ils ont tous développé des franchises. Pourquoi ? Parce qu'ils ont développé des mondes. Alors qu'avant, les créateurs développaient des histoires. Moi, je crois sincèrement que c'est l'environnement technologique dans lequel on se trouve qui favorise ces écritures-là. Et que ceux qui n'ont jamais écrit pour une seule plateforme ont plus de facilité pour écrire pour toutes les plateformes.
Ah, c'est intéressant ça. Parce que j'allais dire, effectivement, vu que historiquement, l'histoire venait d'un média spécifique, et généralement, le créateur était reconnu dans cet univers spécifique-là, c'est-à-dire que si je suis un réalisateur télé ou un réalisateur cinéma, je maîtrise bien ce média-là, les autres peut-être un peu moins, et je suis teinté par le discours, la façon de raconter une histoire. Si j'ai déjà mon histoire, j'essaie de faire vivre sur d'autres plateformes, plutôt que la partir de quelque chose qui est avant même d'être... Avant même d'être sur une plateforme X, le travail est complètement différent.
Exactement. Et le résultat est très différent. Je veux dire, la vision du créateur Walking Dead était sans commune mesure au départ celle qu'il a réussi à matérialiser. La vision du créateur de Heroes était un peu la même chose. C'est-à-dire, lui, quand il est parti dans une écriture transmédia, il est parti pour sauver sa peau. Hein. Parce qu'il s'est dit, si je fais quelque chose comme tous les autres, je suis mort.
Ah ouais.
Donc il faut que je réécrive quelque chose qui va épater, à la fois dans le fond et dans la forme.
Dirais-tu que, compte tenu qu'effectivement, là, bon, moi je suis un gars qui vient plus de la publicité, fait que je vais parler dans ce langage-là, ultimement, quand on fait quelque chose, un acte de communication marketing, il y a une cible, puis on s'assure d'adresser ses besoins. Une bonne pub va le faire, une mauvaise pub le fera pas. On va s'assurer de lui parler sur les bons médias, avec la bonne histoire. Dans l'univers du plurimédia, les marques se sont trouvées tellement cool qu'elles se sont créées des pages Twitter, Facebook, suivez-moi. Puis même si j'adore, je sais pas moi, Budweiser, il y a une limite au temps que je vais investir pour aller la suivre sur cette marque-là sur l'ensemble des plateformes.
Ouais.
Fait que jusqu'à un certain point, sachant que ultimement, même si j'ai l'histoire qui torche la plus incroyable au monde, y a du monde qui ne veulent pas se taper une BD, il y a du monde qui ne veulent pas répondre au téléphone parce que le jeu fait en sorte que, etc.
À partir du moment où tu es passionné par un film, normalement, tu peux espérer que les grands fans... Alors, c'est sûr que les grands fans l'ont su. Mais la majorité des gens qui ont aimé Matrix ne savent même pas l'univers Matrix qui est à leur disposition autour du film. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la force du transmédia, c'est de s'adresser à un public cible spécifique en fonction de codes spécifiques par plateforme. Et en même temps, c'est aussi son grand défaut. C'est-à-dire que moi, si j'aime pas la BD, je ne lirai jamais les BD de Walking Dead, alors que j'ai adoré ce qu'ils font en télé.
Ouais, ok.
La clé du transmédia, c'est le personnage. Et l'univers dans lequel s'exprime ce personnage-là. Pourquoi ? Parce que tu as des personnages qu'après tu vas pouvoir faire vivre en télé, en cinéma, en BD, sur Twitter, sur Facebook, dans des jeux, dans des... Tu sais. Mais ça ne sera pas les mêmes personnages. Par contre, ils vont se croiser. Ils vont s'entremêler. Et c'est tout l'univers que tu me demandes de visiter. Parce qu'en fait, ce qui est formidable, c'est d'arriver à créer des marques qui vivent dans des vortex différents. Et qui permettent à ces marques de s'exprimer dans des vortex différents, dans des langages différents, et donc du coup d'avoir un pouvoir de pénétration qu'avant on n'avait pas.
Hey, je viens d'avoir une des folles, Véronique. Ouais. Est-ce que ça s'est fait ou est-ce que ça va se faire bientôt? Tu dis que le transmédia, c'est d'abord et avant tout un univers de personnages et non pas d'histoire en tant que tel. Fait qu'on a-tu commencé à voir des personnages d'une histoire rencontrer des personnages d'une autre histoire? Ou dans le fond, le transmédia, c'est l'ensemble de ce qui est produit from now on?
Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste de bien comprendre. Est-ce que tu fais référence, par exemple, à un spin-off ou quelque chose comme ça?
Ben, c'est parce que je t'écoutais tantôt que tu disais le transmédia, c'est pas autant l'histoire que les personnages.
Que les personnages, oui.
Donc, regarde, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, mais Tintin existe dans un univers X, puis Astérix existe dans un autre univers Z. Éventuellement, il va-tu arriver des rencontres de ces différents personnages-là qui vont créer un troisième...
Si les auteurs l'entendent, oui, ça serait merveilleux. Là, tu commences à devenir... Là, on commence à créer une espèce d'univers permanent.
En fait, ça devient comme le web des histoires.
Oui.
Le réseau des histoires. Au niveau de la formation, est-ce que vous en donnez à ce niveau-là ou est-ce qu'il en existe dans le monde? Parce qu'éventuellement, étant donné que ça dépasse même... La forme, l'outil, on doit se reculer et apprendre quasiment à programmer une histoire plutôt qu'à l'écrire dans un premier temps.
En fait, c'est ça, exactement. En fait, il faut revenir, paradoxalement, c'est qu'on revient à l'essence. Hein. L'essence d'une histoire, c'est quoi? C'est un rythme, c'est des moments particuliers qui doivent s'inscrire dans le temps de façon particulière, mais ce sont des personnages et un univers. Je veux dire, tout scénariste n'a pas fait son devoir. Ses devoirs par rapport à ses personnages et l'univers qu'il veut visiter, va te pondre un scénario qui n'a aucun sens. Et que tu es capable de qualifier de faible ou de mauvais, pire, parce qu'il n'est pas incarné, en fait. Or, aujourd'hui, ce qu'on demande aux auteurs, parce que ce sont des auteurs qui doivent travailler sur ces projets-là, c'est justement d'être capable d'adresser l'essence de leur création, donc de créer des personnages et des univers. Donc, on en revient à ce qu'on a toujours fait. Et tu vois, moi, au niveau du programme, je dirais que ceux qui rentrent en écriture multiplateforme, la première chose qu'on leur apprend à faire, c'est à créer des personnages. Et je le fais faire par quelqu'un qui fait de l'écriture télé. Parce que avant de commencer à penser éclaté, on va commencer d'abord à se rapprocher de ce qui est commun sur l'ensemble. Ouais. Et qui fait qu'on s'attache à quelque chose, c'est la personnalité de ce qu'on nous présente. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur le persona des personnages, mmh. et le persona aussi du public, et le persona de l'objet.
L'objet étant la plateforme, par exemple.
Exactement, tout à fait. Parce que tu sais qu'il y a quand on regarde les réseaux sociaux, chaque plateforme a son ADN. Genre l'ADN de Facebook n'est pas le même ADN que Twitter. De la même façon que Foursquare a un ADN particulier, que Instagram a un ADN particulier.
Ou plutôt Foursquare avait un ADN.
Oui, c'est pour ça que j'ai parlé au passé. Mais tu sais, si tu ne tiens pas compte de cet ADN-là, mais tu n'es pas capable de parler aux gens sur le au niveau où est-ce qu'ils veulent te parler.
Absolument.
Donc tu dois leur parler pour qu'ils t'écoutent, au moins, qu'ils t'entendent déjà et qu'ils t'écoutent après. Donc c'est ce principe de l'ADN est quelque chose de très important. Puis tu sais, si on pousse ça loin, nos personnages, nos présences sur Twitter ou Facebook c'est un petit peu différent, mais sur Twitter, je te dirais, on a créé nos personnages. On a notre ligne éditoriale, on a notre couleur, il y a des choses que je ne renverrai jamais parce que ça c'est pas moi, tu sais.
Totalement. Ou même on a différents personnages ou personnalités selon la plateforme. Moi,
exactement. Moi je bloque pas.
Normand sur Facebook, il est absolument pas le même que sur Tumblr, puis vraiment pas le même que Pinterest, puis l'ensemble de ça, c'est toujours un peu moi, mais.
Mais tu sais, c'est dans ce sens-là où nous sommes des auteurs transmédia. Mm-hmm. Et il y a des gens qui vont nous suivre sur toutes les plateformes parce que notre univers les intéresse, ils s'y sont attachés, puis ils aiment qu'on blogue parce qu'on blogue sur un sujet qui les intéresse, mais ils adorent sur Twitter parce qu'on balance que des conneries qui les fait rire, et que sur Facebook, ils sont nos amis parce qu'on se voit de temps en temps, puis ils adorent les photos qu'on partage. Tu sais, mais il y a bien des gens qui nous connaissent que sur Twitter.
Ouais, c'est pas effectivement, c'est rarement les mêmes gens, parce que déjà, la plateforme appelle un certain style, une certaine façon d'interagir.
C'est ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on exigerait du transmédia quelque chose qui n'est pas naturel?
Ouais.
On ne peut pas l'exiger. C'est pour ça qu'il faut réviser nos critères de réussite. C'est parce qu'en fait, on attendait du transmédia quelque chose qui n'existe pas. Mais par contre, ce qui existe à travers le transmédia est formidable. Et c'est ça qui est passionnant, en fait. C'est que le transmédia, c'est le résultat de la multiplicité des écrans. C'est le résultat de la reprise du pouvoir que le public n'a jamais eu avant sur ce qu'il consomme, la vitesse, la quantité, la qualité et le prix.
Donc, et le temps.
Et le temps. Donc c'est une expression en fait de quelque chose, mais qui évolue avec qui nous sommes. Et c'est pour ça que je trouvais ça vraiment intéressant, ce gars-là qui disait « Moi, je ne peux pas parler transmédia parce que d'abord, on l'entend mal, parce qu'on pense plus multiplateforme, plus convergence, plus... plug marketing, mais la perception est dépassée aujourd'hui. Donc je pense qu'il est intéressant de penser une écriture multiple, éclatée, qui prend en compte les personnes à qui on veut parler, à la fois dans le fond et dans la forme, et puis évitons de mettre des étiquettes là-dessus, parce que de toute façon, je pense que les créations qui sont faites sont déjà comme ça.
Et voilà qui conclut un autre podcast. Pour lire l'article que j'ai écrit à ce sujet, téléchargez l'application pour iPad Grenier Magazine sur l'App Store. Salut!